La marche du monde.
Mon père, c'était un Makwa qui venait d'Afrique. Il s'appelait Skadjali. Mais la femme qu'il prit comme épouse, elle venait d'ici, de Madagascar. La raison pour laquelle mon père est arrivé ici, c'est que, avant, on prenait des hommes en Afrique. Alors ils l'ont attrapé. Et il est arrivé ici dans un boutre qu'on surnommait Mambosasa. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Mantirano, à l'époque.
Nous sommes à Madagascar, sur la côte ouest. C'est là, à plus de 400 km large des côtes africaines, que l'historienne Clara Boyer-Rossol a enregistré ce témoignage. L'homme est à la fin de sa vie, il évoque la déportation de son propre père, capturé en Afrique pour la traite négrière. Le témoignage est rare, car à Madagascar, le sujet est tabou.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Merci Clara Boyer-Rossol de nous faire partager quelques-unes de vos pépites sonores. Vous avez sillonné l'île de Madagascar à la rencontre des descendants d'esclaves dont les grands-pères ou même peut-être parfois les pères ont été capturés en Afrique. Et ces descendants d'esclaves sont appelés les Makwa. Alors, qu'est-ce que désigne exactement cette appellation ?
C'est un terme générique.
Ouais.
Aujourd'hui, il est compris comme désignant des personnes d'origine continentale, puisque des Malgaches se considèrent aussi comme des Africains, donc voilà, mais d'origine continentale.
Donc du continent noir africain.
Du continent noir africain, ou même pour désigner une personne prétendue de couleur très noire de peau. Et souvent, c'est assez péjoratif. Il y a des expressions, par exemple, pour dire « Makwa lai », « Makwa vave », ce sont toutes des représentations qui sont héritées de l'esclavage. Le terme Makwa au XIXe siècle a désigné donc un groupe servile à Madagascar constitué donc de captifs continentaux.
Clara, est-ce qu'on retrouve les Makwa ailleurs qu'à Madagascar ?
Oui, justement. Ce qui est intéressant, c'est que les diasporas issus du Mozambique et de la traite et de l'esclavage ont été désignés sous des termes tels que Makwa, mais aussi Mozambique, Yamban, etc., selon des noms d'ethnies ou de lieux de déportation. Et on retrouve ces termes-là au Mascaren et aussi dans l'espace atlantique et notamment au Brésil. Alors il faut savoir, le Brésil quand même, dans l'histoire de la traite et de l'esclavage, c'est un pays très important. C'est au moins 4 millions pour la traite atlantique de personnes déportées. Et au 19e siècle, le Mozambique est devenu un pays très important exportateur d'esclaves.
Alors ce sont les Sakalava, malgaches, qui vont chercher les Makwa africains pour les vendre, comme vous l'a raconté Roroni à Majunga, sur la côte ouest de Madagascar.
La deuxième fois que les Sakalava sont allés d'ici jusqu'en Afrique pour acheter des esclaves, ils ont emmené des bouts de bois appelés natto. Des natto de 50 kilos, des natto de 30 kilos, de 20 kilos. C'est ce qu'ils avaient pour attacher les hommes. Donc, arrivés en Afrique, ils ont choisi des makwa et les ont attachés à ces morceaux de bois, selon leur force. On les y attachait et on les mettait tous dans le boutre. Mais lorsqu'ils étaient en cours de route, eh bien, ils n'arrivaient pas à se lever. Leur tête restait attachée, ils étaient coincés. On leur donnait à manger, et ils faisaient leurs besoins au même endroit. Et donc, on ramassait et jetait alors leurs excréments. Et ils faisaient cela jusqu'à leur arrivée à Madagascar. Et quand les Makwa sont arrivés, les positions s'étaient finalement inversées. Les personnes qui étaient soumises à l'esclavage devenaient les maîtres en quelque sorte, et ceux qui réduisaient les autres à l'esclavage étaient contraints de ramasser les excréments de leurs esclaves. C'est pourquoi, en ce temps-là, les Makwa avaient un très bon statut. Car ce sont ceux qui les avaient achetés qui avaient ramassé et transporté leurs excréments. Ceux qui les ont achetés ont d'une certaine façon accepté de devenir les esclaves des Makwa. Vous avez de l'argent, mais c'est vous qui ramassez les excréments de vos esclaves. Alors, lequel des deux est réellement l'esclave ? C'est ce qui s'est passé. Et comme vous voyez, n'importe où vont les Makoa, on les remarque toujours. Les Makoa sont comme de l'or qu'on a mis dans la boue.
Les Makoa sont comme de l'or qu'on a mis dans la boue. C'est beau et c'est poétique. Et c'est ce que vous raconte Roroni à Majunga, Madagascar, Clara Boyer-Rossol. Les esclaves deviennent les maîtres. Nous, on aimerait bien comprendre.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ah, ce récit est exceptionnel. L'esclavage était souvent associé à la souillure. Les esclaves étaient considérés comme des personnes sales. Et là, il y a ce formidable retournement de situation. Roroni raconte, pendant la traversée des mers, c'était les maîtres, entre guillemets, en tout cas, voilà, ceux qui les déportaient de force, qui devaient ramasser ces excréments. Et il montre que ce sont ceux qui avilissent les êtres humains qui se salissent eux-mêmes.
Alors, ces Africains déportés à Madagascar, les Makoa, ils sont transportés par bateau. Ce sont des boutres, Clara. C'était un grand voilier en bois d'une quinzaine de mètres.
Oui, c'était souvent des boutres de faible tonnage, hein, de 30 à 40 tonneaux à voile, où les captifs étaient entassés. Alors, surtout pendant la traite illégale, durant les dernières décennies du 19e siècle, il y a un phénomène de surentassement, qu'on appelle le surentassement à la mode portugaise, c'est-à-dire où vraiment il y avait plus de 5 esclaves par tonneau au moins. Et c'était donc des boutres en bois, où pour éviter justement d'être accusé de trafic, de traite illégale, il n'y avait plus d'équipement, comme il pouvait y avoir dans les navires de traite légale d'esclaves. C'est pour ça, notamment, que les conditions des captifs se sont vraiment détériorées durant cette période. Et la première interview, on entendait ce détenteur de tradition orale makwa qui nommait Mambusasa comme un des boutres dans lequel ont été déportés les ancêtres. Et ce nom de boutre, Mambusasa, je l'ai retrouvé dans différentes archives portugaises, françaises et britanniques au 19e siècle. Alors c'était différents boutres qui s'appelaient Mambusasa, de différents tonnages, mais qui étaient tous impliqués dans le trafic d'esclaves.
Alors les Makoa sont donc des Africains libres, capturés par les Arabes et vendus aux négriers. Écoutez le récit de l'un d'entre eux, rapporté par un missionnaire anglais, une archive de 1877.
Un jour, le narrateur et son frère étaient assis ensemble dans la hutte familiale lorsque leur père vint les prévenir que l'ennemi s'approchait. Ils saisirent à la hâte des armes et se tinrent prêts à aider leurs parents à se défendre eux-mêmes et le peu de biens qu'ils possédaient. Mais leur courageuse résistance fut vaine. Le pauvre vieillard fut abattu en leur présence. Ils ont rapidement été désarmés et se mirent en marche avec d'autres vers la côte. Chacun de ces infortunés avait une énorme broche en bois solidement fixée à son cou pour éviter toute tentative d'évasion. Sur le chemin, le frère aîné de notre ami, qui était absent de la maison au moment de sa capture, a tenté de se sauver. Il trouva la mort aux mains des Arabes brutaux. Peu de temps après, cependant, le plus jeune frère profita d'une occasion favorable et se sauva de leurs griffes. Alors, la plus grande attention fut portée sur le frère restant. Lorsque la bande atteignit la côte, lui et un certain nombre d'autres ont été mis à bord d'un boutre à destination de Madagascar. Étant un garçon vif, il réussit à convaincre les marins de lui accorder une place en haut lieu de la cale, dans les quartiers des esclaves, comme il redoutait la saleté et la puanteur des régions inférieures. Ce qu'il dit à propos de celle-ci est trop horrible pour le décrire. Beaucoup de ces malheureux mouraient, et lorsque leur mort était découverte, ce qui parfois arrivait des heures après, leur corps émacié était jeté par-dessus bord dans la mer. Enfin, le boutre atteignit Marunga. Mais un navire de guerre britannique était dans la baie. Les esclaves survivants étaient alors ravis de voir la terreur de leurs persécuteurs. Tout était consternation à bord du boutre. Il fit rapidement marche arrière et fut bientôt loin en mer de nouveau. Il navigua sur l'océan pendant 2 ou 3 jours. Et après un certain temps, se hasarda à s'approcher de Moratsangana, un autre port de la côte ouest de Madagascar. L'ami britannique de l'esclave était là avant lui. Alors, il y eut plus de peur, plus d'excitation, le travail des voiles fut plus difficile, et ils partirent de nouveau en suivant le vent. Enfin, la baie de Marunga a été trouvée exempte de croiseurs, et les méchants propriétaires du boutre débarquèrent le restant de leur cargaison de souffrance et vendirent les esclaves aux habitants. Parmi d'autres, le narrateur malchanceux de l'histoire a été vendu à l'un des Ovas dans la ville, un des hommes libres. Et de là, son chemin se poursuivit à l'intérieur de la grande île.
Récit captivant d'un captif tel qu'il a été entendu par un missionnaire dans les années 1870 dans le nord-est de Madagascar. Françoise Vergès, est-ce que vous entendez le mythe ou la réalité de l'esclavage ?
La réalité. Avec Madagascar, on a à la fois l'esclavage à Madagascar même, l'importation d'esclaves pour servir les Malgaches et l'exportation de Malgaches ou de ces esclaves amenés d'Afrique dans le système de l'esclavage colonial français. Vous savez, les gens racontaient qu'on savait qu'un bateau négrier arrivait bien avant qu'on le voie à cause de l'odeur. Donc le fait de la mortalité, c'est peu importe, on va en faire venir d'autres et en faire venir d'autres. Et donc, peu importe les conditions de transport, on pourrait dire, les taux de mortalité sont absolument terribles. La puanteur, les gens étaient tête bêche contre eux, il y avait juste une petite tinette. Les gens étaient endormis à côté de cadavres pendant plusieurs jours, pas quelques heures. Les enfants pleuraient, il y avait des gens qui devenaient fous, qui se mettaient à hurler. Tout ce qu'on a entendu sur d'autres situations de transport des déportés, on peut se dire que le bateau négrier, c'était ça, multiplié par 10.
Mémoire d'esclaves dans la marche du monde, mémoire taboue comme à Madagascar. L'île a en effet importé des captifs d'Afrique, mais elle a également exporté des malgaches pour le marché de la traite.
Mokombasa venait de Morima. De là-bas, il est venu ici avec un boutre. C'était encore un enfant qui jouait avec des flèches lorsque son oncle, le frère de sa mère, l'a vu et l'a mis dans le boutre. On lui a donné de l'argent en retour. C'est comme cela qu'il est parti. Il a été amené ici, à Madagascar. Mais il n'était pas le seul. Ils étaient nombreux dans le boutre. Nombreux étaient de ses amis à bord. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, ils se sont considérés comme des membres d'une même famille. Voilà, puisque le boutre était comme leur père et mère. C'est ce qui les a amenés ici.
Clara Boyer-Rossol, une autre de vos pépites sonores, ce qui montre que vous avez réussi à recueillir des témoignages. Alors on l'a dit, c'est tabou, cette mémoire de l'esclavage, mais à force d'aller à la rencontre de l'autre, vous avez pu réveiller cette mémoire.
Je pense que c'est surtout grâce aux traditions orales makua qui sont toujours transmises. Et bon, c'est la spécificité des descendants de Makou, c'est-à-dire que on parle de l'histoire de la traversée des ancêtres, et c'est à travers cet horizon que le fil de l'histoire de la traite et de l'esclavage, petit à petit, à travers tout un vocabulaire, à travers des suggestions, parfois très ouvertement, mon ancêtre est venu comme esclave, s'ouvre. Pour les Malgaches d'ascendance malgache et servile, il est beaucoup plus difficile d'ouvrir une brèche sur ce silence. Ce témoignage est vraiment exceptionnel. Il mentionne également le phénomène de la parenté fictive au cours de cette traversée. C'est pas seulement de dire, voilà, nous sommes tous frères, on a vécu ça, etc.
Oui.
Non, ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que une fois arrivés à Madagascar, les captifs qui étaient dans le même boutre se considéraient comme des frères et sœurs d'une même expérience. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les descendants des frères et sœurs sont frappés de l'interdit des alliances matrimoniales. Voilà, on est dans une fabrication de la parenté.
Françoise Vergès.
Oui, on a remarqué que beaucoup dans ce qu'on appelle la traite orientale, c'est-à-dire donc vers les pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, pas mal de femmes et d'enfants. Ça servait pour la domesticité et pour les harems. Alors que, par exemple, l'esclavage colonial européen, lui, c'est pour travailler dans les plantations ou dans les mines. Je voulais revenir sur la question de l'oubli, parce qu'à l'île de la Réunion, pendant très longtemps, de manière clandestine, mais moi je me souvenais, mes parents nous emmenaient, les descendants d'esclaves avaient des rites aux ancêtres malgaches. Très clairement, malgaches. Et on a une anthropologue, Christiane Racotolai, qui regarde, si vous voulez, la manière dont certains cimetières sont faits, et la disposition rappelle les dispositions de cimetières malgaches. Donc, le souvenir malgache, il est là. Il est aussi dans les noms hein, de l'intérieur de l'île, Tsimandev, Tsilaos, Dimitil, qui étaient les noms de ces esclaves marrons, donc des esclaves malgaches qui se sont échappés et qui ont occupé l'intérieur de l'île. Donc quand on parle de silence, c'est un silence officiel, c'est un silence de l'école, ce n'est pas un silence dans les mémoires populaires. Elles sont là dans les chants. Dans le Maloya, par exemple, dans les instruments, on a retrouvé les instruments de musique malgache, dans certaines recettes de cuisine, dans certains mots de la langue créole, et dans ces rites, justement, dans cet appel aux ancêtres. Et chaque année, on performe pour effectivement leur rendre hommage, on leur donne à manger, on leur donne à boire, pour qu'ils puissent continuer à voyager tranquillement. Et je voudrais juste aussi rappeler que beaucoup, beaucoup d'esclaves s'échappaient de la Réunion par barque, parce qu'ils pensaient retrouver la grande île.
Donc la pirogue, le boat people, c'est pas nouveau. Voilà.
Parce que pour les malgaches déportés, ils s'étaient quand même rendu compte que le voyage n'avait pas été si long. On n'était pas dans l'histoire de l'Atlantique. Donc ils se disaient, mais c'est pas si loin mon île, je vais y retourner. Et ils volaient les barques. Alors, j'espère que certains ont pu faire cette traversée et sont retournés dans leur île natale.
On a des sources d'archives pour le XVIIIe siècle qui mentionnent des fuites réussies d'esclaves malgaches de retour à la Grande Île. Et à la Grande Île, il y a eu aussi des tentatives de retour de captifs est-africains vers le continent.
Bon, alors bonne nouvelle quand même.
Milamine, mi fagatave, mi fagatave, rima la gase, rima la gase.
L'esclavage existe-t-il toujours à Madagascar? Peut-on parler d'esclavage moderne dans une île marquée au fer rouge de la traite négrière? Grâce à l'enquête de notre correspondante Aline Ranevosson, nous allons pouvoir entendre une jeune femme de 39 ans, victime de maltraitance. Passeport confisqué, violence physique, 18 heures par jour de travail domestique sans aucun salaire en Arabie Saoudite. Alors que cette femme malgache était partie avec une agence de recrutement malgache, qui ne s'est jamais soucié de son rapatriement.
Zital, vous êtes partie en Arabie Saoudite en mai 2013. Dans quelles conditions êtes-vous partie?
Fumbani la petite Madagascar, avtamni agence service global nangande fazatangi Arabie Saoudite.
J'étais partie de Madagascar, j'ai contacté une agence de placement qui s'appelle Agence Service Global le 4 mai 2013.
Nous étions 16 à partir à Arabie Saoudite, 16 femmes.
J'étais partie de Madagascar avec un contrat plus un billet aller-retour pour revenir à Madagascar.
Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé chez votre patron?
En fait, lorsque j'étais arrivée à ma nouvelle patronne, je n'ai pas eu le repos qu'on m'avait promis. J'ai dû travailler 24 heures sur 24. Je n'ai pas eu de repos.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail précisément?
Il y avait 9 personnes dans la même famille. J'ai dû effectuer toutes les tâches ménagères qui se rapportent à ces 9 personnes. Ma patronne me forçait à me lever à 4 heures du matin. J'avais pas assez de sommeil pour dormir. Il fallait que je me lève tôt et j'étais pas nourrie par ma patronne.
Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé ce jour où votre patronne vous a aspergé
du détergent dans l'œil,
c'est ça?
J'étais en train de laver la vaisselle et elle avait dit que j'avais mis beaucoup de Clorox dans la vaisselle. Alors elle s'est fâchée, elle a aspergé mon œil de Clorox.
Vous avez pu être soignée alors ?
Le docteur a quand même fait le minimum. Il a dit que mon œil ne pourra pas être guéri si je n'ai pas une opération.
Elle ne
m'a pas laissé avoir l'opération parce qu'il fallait que le contrat soit terminé pour que je puisse avoir l'opération à Madagascar. J'ai décidé de rentrer à Madagascar et j'ai cherché tous les moyens pour que je puisse revenir parce que j'avais trop souffert avec ma maladie.
Alors qu'avez-vous fait ? Est-ce que vous avez essayé de fuir cette patronne ?
En fait, nous étions deux chez cette patronne et après 6 mois et demi, nous avons décidé de nous enfuir afin que la police puisse nous arrêter dans la rue. Lorsque nous étions partis, nous avions dû faire 4 km pour arriver jusqu'à la ville. Et des gens voyaient que nous étions des femmes de ménage qui s'étaient enfuies. Et un chauffeur avait contacté la police. La police avait contacté mon ancienne patronne. Celle-ci s'était enfuie et c'était son enfant qu'on avait convoqué afin d'acheter nos billets pour revenir.
Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Est-ce que vous allez porter plainte ?
Je ne veux pas porter plainte parce que je n'ai pas d'argent. Le peu que je puisse demander, c'est juste de demander au DG de l'agence de me donner l'argent afin que je puisse retourner dans ma région après qu'on ait fini le traitement avec mon œil.
Dans l'histoire de Madagascar, il y a déjà eu des histoires d'exploitation. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ?
Oui, je savais bien qu'il y avait une histoire d'esclavage pour la population malgache, vraiment lointain. En fait, je me sentais vraiment comme une esclave. C'était comme autrefois, c'est grosso modo, j'étais une esclave.
Esclavage moderne à Madagascar. Clara Boyer-Rossol, je vous pose la question. L'ONU a d'ailleurs produit un rapport très fourni sur ce sujet.
D'après le dernier rapport de l'ONU en 2012, les formes contemporaines d'esclavage concernent en majorité les personnes les plus vulnérables, donc c'est-à-dire les femmes et les enfants.
Je précise d'ailleurs que notre témoin féminin est parti en Arabie Saoudite au moment où les agences avaient encore un agrément du ministère du Travail. Depuis, le gouvernement a suspendu toutes les autorisations pour les départs de travailleurs dans les pays à risque, dont l'Arabie Saoudite.
Oui, alors il faut quand même souligner le contexte économique et politique particulièrement difficile à Madagascar depuis le début des années 2000 et encore plus particulièrement depuis les événements de 2009 avec la fin d'aide financière des États-Unis qui ont provoqué au moins 50 000 pertes d'emplois directes. On est dans une situation politique et économique très difficile et c'est sur ce terreau de la misère en fait que la traite et l'esclavage actuels s'alimentent.
Alors Françoise Vergès, on remarque que c'est quand même par le biais d'agences malgaches que cette jeune femme s'est retrouvée dans cette situation en Arabie Saoudite. En tant que spécialiste de l'esclavage et en tant qu'ancienne présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage, quelle est votre réaction à l'écoute de ce témoignage ?
Qu'il y ait toujours des intermédiaires pour profiter de l'exploitation, pour profiter d'une situation, ce n'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est plutôt scandaleux, c'est que le fait qu'effectivement il y a tout un système économique mondial qui continue à perpétuer cela. On sait que la traite aujourd'hui, ce serait la troisième source de revenus illégaux dans le monde, après les armes et la drogue. La question, c'est quelles sont les causes de cette misère, comment y mettre fin, et comment faire en sorte qu'effectivement les Malgaches puissent vivre dans leur pays. La plupart des gens qui s'en vont, ils partent pour faire vivre leur famille. Et ils se retrouvent dans des situations de servitude et d'exploitation la plus cruelle et la plus brutale. C'est de cela qu'il faut parler. Il y a eu l'esclavage colonial, il y a des nouvelles formes d'esclavage aujourd'hui, des nouvelles formes de colonisation. Et c'est donc à nous de mener les nouveaux combats de l'abolition.
Merci Françoise Vergès, merci Clara Boyer-Rossol de nous avoir fait partager les fruits de votre enquête. On attend très très vite la publication de votre thèse en 2015 sans doute. Et puis Françoise Vergès, je suis sûre que vous avez un bouquin sur le feu.
Oui, j'en ai un sur le feu.
Donc on attend ça aussi très très vite. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup. Mémoire d'esclaves, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. Toutes nos infos sont à retrouver sur la page internet de La Marche du Monde. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur Facebook. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.